BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Roland Agui, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le patron de l'UMI, comme on dit, tous les restaurants, hôtels de commerce. Est-ce que vous avez un peu le sourire ce matin? Parce qu'on sait que depuis ce matin, vous pouvez réouvrir.
Oui, bien sûr qu'on a le sourire. C'est une délivrance pour la profession. La vie normale va reprendre, j'espère, et cela nous donne du baume au cœur. Et on va enfin pouvoir sortir la tête de l'eau parce qu'on vient de passer quand même plus de 2 mois et demi dans des conditions catastrophiques pour toute la filière. Donc maintenant, c'est à nous effectivement de prendre notre destin en main et de voir comment on va pouvoir faire redémarrer cette activité en essayant de limiter la casse économique et la casse sociale en étant le plus performant possible parce qu'on sait très bien qu'il y aura encore beaucoup de doutes.
Est-ce que vous avez une indication du niveau? Il y a 300 000 restaurants et cafés qui devraient rouvrir ce matin. Est-ce que c'est, selon Bercy et Bruno Le Maire, est-ce que c'est le chiffre que vous avez à l'UMI? Est-ce que vous avez déjà quelques indications?
Sur tout ce qui est zone verte, effectivement, il y a pratiquement 95% des entreprises qui ont rouvert ce matin. Mais bien sûr, et après les zones oranges, c'est un peu plus difficile, puisque dans les zones oranges, il y a seulement les terrasses qui peuvent rouvrir. Donc c'est un peu comme toutes ces entreprises-là vont travailler en sous-capacité pour respecter le protocole. Donc il faut rester très prudent et très vigilant. Mais oui, on avait vraiment envie de rouvrir. Et on a maintenant toute la difficulté du chef d'entreprise, c'est effectivement d'obtenir ce seuil de rentabilité qui soit suffisant, et surtout en observant le protocole, en respectant le protocole au mieux pour protéger les salariés, protéger les clients et leur redonner confiance pour qu'ils reviennent dans nos entreprises.
Oui. Est-ce que vous avez... On reviendra sur le protocole sanitaire, mais après ces 2 mois et demi de confinement, dans quel état sort votre profession? Est-ce que vous avez là peut-être un triste bilan à nous dresser, Roland Agui?
Ah ben, le bilan... Le bilan en été, vous savez, on est sorti d'un coma artificiel et la convalescence va être très longue et très dure. Mais ça, on le sait, on n'a jamais connu une période comme ça. Ça fait pratiquement plus de 80 jours, il n'y a pas un euro de recette. Donc il faudra rebondir. Alors c'est vrai qu'on a eu des aides massives de l'État sur des soutiens, sur le chômage partiel et sur l'exonération des charges sociales patronales. Mais ceci dit, après, tout ce qui est prêt garanti par l'État, tout ce qui est report, il faudra le payer d'ici là. Ce sont des dettes qu'on va effectivement rembourser d'ici la fin de l'année. Donc, comme l'activité, il me semble, si on arrive à réaliser en 2020, la moitié, 50% de ce qu'on a réalisé en 2019, ce sera un exploit. Donc, vous voyez, l'équation, elle est facile à faire. Beaucoup de difficultés quand même.
Ouais. Le fonds de solidarité, il sera maintenu jusqu'à... Pour votre secteur, hein, il sera maintenu, c'est l'annonce de Bruno Le Maire ce matin, il sera maintenu jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous dites, heureusement?
Bien sûr, heureusement, parce qu'autrement, il y aurait des défaillances, il y aurait des milliers et des milliers de défaillances dans les cafés, les restaurants et sur l'ensemble du territoire français. Donc, c'est vrai qu'avec le gouvernement et avec Bruno Le Maire, on a des points d'étape tous les 2 mois pour voir effectivement de quelle façon et à quelle vitesse l'activité reprend. Et c'est de là, sur l'accompagnement du chômage partiel, les exonérations des charges patronales et sur le fonds de solidarité, on en aura besoin en 2020 et sûrement en 2021.
Ouais. Sur ce protocole sanitaire qui est quand même extrêmement, on a vu les images sur toutes les chaînes de télévision, bien sûr, mais c'est un protocole assez sévère. Je posais la question ce matin à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui était mon invité, en disant, mais est-ce que c'est pas un truc de technocrate? Parce que vous voyez tous les gens qui sont dans la rue sans masque, qui se côtoient, et puis lorsqu'on demande ce qu'on voit ce qu'on demande au restaurant et au café, on se dit que c'est quand même trop sévère. Est-ce qu'il est praticable ce protocole sanitaire ou pas?
Alors je vais vous répondre, heureusement qu'on l'a co-construit avec le gouvernement, parce qu'à l'origine il était impossible, il était injouable. Ouais. Il n'y aurait pas eu un restaurant ou un café qui aurait ouvert. Hein. Donc on l'a fait ensemble. Aussi, on a dialogué. Par exemple, au départ, on était parti sur un client 4 mètres carrés. Donc là, c'était pas possible d'ouvrir un restaurant. Donc oui, bien sûr qu'il est, bien sûr que, mais on a pris toujours en compte de trouver un équilibre, effectivement, un équilibre sur la santé des clients et un équilibre sur l'aspect économique. Il est encore lourd, mais il faut espérer que d'ici le 22 juin, d'ici la fin juin, si effectivement l'épidémie se rétracte et est derrière nous, on pourra imaginer qu'il y aura beaucoup plus de souplesse.
Oui. Est-ce que vous avez est-ce que les réservations, le niveau de réservation est important déjà ou pas?
Mais c'est qu'il a déclenché un peu plus de réservations, même si elles sont encore toujours timides. C'est le fait, effectivement, c'est de casser la limite des 5 km de la mobilité et les déplacements. Ça, c'était quelque chose de très positif parce que les Français on pourra aller de tel endroit à tel endroit, on pourra effectivement visiter la France et les territoires et se déplacer. Ça a libéré un petit peu les envies. Puis il faut savoir aussi que chaque réservation qui est faite par un client, si jamais l'hôtel a un souci après de Covid-19, il s'est engagé à systématiquement rembourser la réservation. Donc ça l'incite et c'est rassurant pour la réservation et pour le client.
Est-ce qu'il y a une question, parce qu'on le voit beaucoup pour les chefs d'entreprise, les entreprises peut-être plus grandes qu'en tous les cas de par la taille, sur la responsabilité pénale, est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie et qui effraie les restaurateurs?
C'est une vraie question d'ailleurs que l'on a posée et on a une réponse effectivement du gouvernement. Si effectivement il y a un respect total du protocole, il n'y a aucune responsabilité de la part du chef d'entreprise.
Ah oui, ça c'est un point important.
Très important, sur lesquels effectivement on a demandé des précisions. Et donc respect du protocole, donc c'est pour ça que j'appelle effectivement l'ensemble de la profession à beaucoup de vigilance et à beaucoup de prudence dans ce domaine-là. Et après, effectivement, après on ne pourra jamais éviter que des personnes fassent n'importe quoi.
Est-ce que l'application de ce protocole sanitaire, il a forcément un coût? En plus, il y a eu 2 mois et demi avec 0%, même pas 1 euro d'activité. Est-ce qu'il faut s'attendre quand même à des additions un peu plus salées, Roland Guy?
Sur les additions, je ne crois pas, parce que le problème, si vous voyez, les additions, c'est toujours l'offre et la demande. Donc, ce qui nous inquiète à nous, chez l'entreprise, c'est le fait que si on respecte ce protocole, il y a une sous-capacité pour travailler. Donc, on va travailler salles de restaurants ou d'hôtels, on va trouver à 40 ou 50% des capacités normales. Donc, il faudra qu'effectivement, on soit ingénieux un petit peu. Il faudra qu'on s'habitue à trouver de nouvelles pratiques pour répondre au client, pour sécuriser le client, pour qu'il ait envie aussi de revenir systématiquement. Parce qu'au début, le client va se poser beaucoup de questions, voire il va avoir peut-être un petit peu peur aussi. Donc, il faudra qu'il aille au restaurant, dans nos cafés, dans nos hôtels, avec beaucoup de confiance. Et après, on va voir de quelle façon, effectivement, l'économie, on va la faire repartir. Mais il y a beaucoup d'interrogations.
Ouais. Est-ce que, en préparant cette émission, quelqu'un me donnait cette information en disant mais c'est sûr que les restaurants, c'est une activité qui ouvre et qui ferme d'une manière, même en temps normal. Il y en a 3 qui ouvrent pour 6 qui ferment. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont vrais?
Il y a un turnover important dans les cafés et les restaurants, oui, vous avez raison de le préciser. Ceci dit, il y a toujours plus de création que à l'arrivée, il y a toujours plus d'entreprises. Parce que c'est vrai, ces métiers-là, c'est assez perturbant d'ailleurs, ce sont des métiers qui font rêver. Donc les cafés, les restaurants et l'hôtellerie. Et donc c'est vrai, à l'arrivée, à la fin, il y a beaucoup de turnover, vous le dites, mais à l'arrivée, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se créent tous les ans. Mm-hmm. Donc c'est dont le point est positif. Vous savez, on est une activité où il y a énormément de salariés, parce que les cafés, hôtels, restaurants... Puis il ne faut pas oublier, vous savez, il y a aussi un domaine, le monde de la nuit aussi... Pour le moment, est toujours sacrifié, c'est terrible. C'est plus de 6000 entreprises et c'est aussi des chiffres d'affaires très très importants.
Oui, puis en plus, sur le long terme, c'est pas évident hein, parce que qui a envie d'aller même cet été en boîte de nuit?
Bien sûr. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a souvent, on le voit d'ailleurs, on a fait des vidéos, des cassettes pour démontrer qu'il y a des regroupements de jeunes partout, tout le long du littoral, sur les plages, le long de la Seine, le long du Rhône, où ça devient les plus grands bars et les plus grands moments festifs de fête pour les jeunes, où on voit effectivement qu'ils se regroupent là, et sans malheureusement faire attention effectivement à toutes les normes et à tous les protocoles possibles pour au niveau santé, pour sécuriser leur santé.
Oui, donc mais en conclusion, Grand Langui, on peut quand même dire, un, vous avez retrouvé un peu le sourire, et deux, ça se présente bien. Après, on fera le bilan évidemment en fin d'année.
Un, il fallait ouvrir. Deux, on va voir comment ça se passe. Trois, espérons que les Français partiront en vacances cet été et découvriront leur pays, leur région, leur territoire. Et fin août, début septembre, on se retrouve pour faire le point.
Rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous, Roland Guy, le patron de l'UMI. Dans un instant, c'est Louis Schweitzer, il est président d'Initiative France, l'ancien patron de Renault, sera avec nous en studio. Et Roland et Guy, vous serez en studio la prochaine fois avec nous. Merci beaucoup en tous les cas.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est l'ancien patron de Renault. Aujourd'hui, il est président d'Initiative France. Initiative France, vous le savez, c'est ce premier réseau associatif de financement et d'accompagnement, notamment des TPE. Louis Schweitzer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Vous avez mené une enquête qui est intéressante. Alors, elle s'arrête au 15 mai, quoi, au 13 mai, mais sur les TPE pour montrer l'importance, en fait, qu'a eu l'action du gouvernement. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'a frappé. C'est que, lorsqu'on regarde la réponse qu'il vous fait, il y en a 66%, 67% qui disent on a eu tous recours au TPE, quoi.
Absolument. Alors, il faut rappeler, c'est 9000 entreprises qui ont répondu, des entreprises créées depuis moins de 3 ans et qui sont soutenues par Initiative France. Et il y a un contraste très frappant à mes yeux dans cette enquête entre le fait que ça a été extraordinairement rude pour les entreprises, plus de la moitié ont arrêté complètement leurs affaires en avril, les deux tiers n'ont pas pu se rémunérer pendant ce mois-là, donc ça a été très rude pour ces entreprises et les deux tiers n'ont pas de trésorerie pour tenir 3 mois. Donc, a priori, vraiment rude. Et puis, il y a quand même, dans cette enquête, à mes yeux, d'abord des bonnes nouvelles.
On va parler des bonnes nouvelles, mais quand même, sur le constat, c'est intéressant, parce que
le constat,
il montre quand même que vous avez donc 66% qui ont sollicité le fonds de solidarité, dont on parlait à l'instant avec le président de l'UMI, 52% ont demandé un report de charges sociales, 47% le chômage partiel. On peut continuer comme ça, et on voit bien que la situation, elle est un peu saisissante lorsqu'on regarde votre tableau.
Elle a cogné.
Oui.
Je le répète, la majorité d'entre eux ont fait un chiffre d'affaires en avril de zéro. Pour une entreprise née de moins de 3 ans, c'est rude. Et en plus, il faut rappeler que ce sont des entreprises soutenues par Initiative France, c'est-à-dire que plus de la moitié sont créées par des chômeurs. Donc ce n'est pas des gens qui ont des réserves. Ce sont des jeunes entreprises qui ont fait face à un coup dur sans précédent dans l'histoire. Ça, c'est la partie rude. Alors, ils ont demandé des aides. Et effectivement, nous les avons aidés à demander des aides. Nous les avons informés, nous les avons accompagnés, parce que le gouvernement a mis en place un panel d'aides. Et forcément, quand vous êtes...
Très compliqué déjà pour un chef d'entreprise qui est un peu aidé, un peu staffé. Donc j'imagine pour des TPE, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, mais il y a les systèmes d'aide qui fonctionnent très bien. Le fonds de solidarité, ça va très vite. Le prêt garanti aux entreprises, c'est plus long et les banques sont inégalement chaleureuses, disons-le comme ça.
Oui. Allez-y, développez.
C'est-à-dire, localement, au fond, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des endroits où les banques, les agences, étaient très ouvertes à accorder rapidement les prêts, d'autres où ça ne se passait pas comme ça. Et ça ne dépend pas de la banque. Donc c'est vraiment une affaire locale, de responsabilité locale. Il y a eu des gens plus ouverts et des gens moins ouverts. Donc, les entreprises ont été amenées à demander des aides et, globalement, je dois dire, ça s'est bien passé. Et puis, moi, je reviens à la bonne nouvelle, peut-être parce que je suis optimiste de tempérament. Mais quand même, vous avez cette crise. Les gens qui sont incertains sur l'avenir. Et vous en avez 60 qui se disent optimistes, 8% qui sont très déprimés. Mais enfin, le rapport, c'est 60 optimistes, 8 déprimés. Et vous en avez plus de 65 qui envisagent de maintenir ou même de recruter en 2020. Moi, je trouve ça extraordinaire après le coup qu'ils ont reçu. Et je pense que l'explication de tout ça, c'est qu'ils ne se sont pas sentis trop seuls. 62% disent « on n'a pas été seuls face à la crise ». Et je pense que...
De reste, on vous appelle, Louis Schweitzer, oui.
Non, je pense que c'est le signe que, au fond, quand on soutient les TPE, quand on les écoute, eh bien, elles réagissent positivement. Et c'est une richesse, à mes yeux, extraordinaire pour le pays. Et pour nous, c'est pour ça que je suis content... C'est une source de fierté, parce que nos entreprises, au fond, voient l'avenir parce qu'elles sont soutenues, parce qu'elles sont écoutées. par nous, mais aussi par les experts comptables, de façon positive.
On en parlera notamment demain matin, parce que mon invité demain matin, c'est la première administratrice judiciaire syndic de faillite. En l'occurrence, elle s'occupe de tous les gros dossiers. Et elle dit, c'est intéressant, Hélène Bourboulou, elle sera mon invité demain matin à 8h15 dans la matinale. Elle dit, elle s'occupe de Prestalis, Vivarte, Lahal, tout le secteur automobile, où c'est un peu une catastrophe. La question, c'est de dire qu'elle a les banques, ça dépend vraiment à qui vous vous adressez. C'est-à-dire que si vous êtes dans le celui qui gère vos prêts, à la limite ça peut passer, mais si vous passez à ce qu'on appelle les affaires spéciales, là ça devient ouille, parce que leur job à ceux qui travaillent dans ce département, c'est diminuer le risque. Donc là vous avez rien. Alors j'imagine que des TPE, il faut mieux connaître bien son banquier pour obtenir quelque chose.
Il se trouve que vous savez Initiative France, quand il accorde un prêt d'honneur, aussi fait l'intermédiaire, aide à obtenir un prêt bancaire. Et donc, nos entreprises ont une banque qui les soutient. Et je pense que c'est très important, parce que beaucoup de TPE se lancent sans soutien bancaire au départ. Et donc, quand vous commencez par consommer vos ressources, et puis qu'après vous allez voir la banque, là, la situation est difficile.
Et bien, il y a combien de faillites parmi le réseau que vous avez là, donc d'initiatives France?
Alors, cette année, je ne peux pas vous dire. Je rappelle que notre... Parce que l'année n'est pas finie, bien sûr.
Non, mais ce que vous observez dans les deux derniers mois, l'occasion de cette enquête, vous voyez.
Franchement, on n'en a pas vu beaucoup. Dans notre enquête, sur les gens qui ont répondu, il y a 8% qui disent soit je vais fermer, soit je vais vendre. 8%. Je rappelle que notre taux de pérennité à 3 ans normal est de 92%. Donc, on retrouve, c'est une petite proportion. Alors que on a plus de 20% des gens que nous soutenons qui sont dans l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire le secteur le plus touché par la crise. On a 30% qui sont dans le commerce. Bon, les commerces alimentaires, ça va. Mais tout le reste, catastrophe. On a un soutien massif au service à la personne, 11% de notre activité, et là aussi, tout arrêté. Donc, au fond, on soutient des TPE qui sont au cœur de la tempête.
Est-ce que, de par vos anciennes fonctions, mais aussi de par vos rôles d'observateur que vous avez là, et d'acteur, est-ce qu'il faut s'attendre, notamment à un peu une situation extrêmement difficile, tout ce qui est TPE, PME, sous-traitants dans des secteurs automobiles, aéronautiques, dans l'Hexagone, ce qui fait le tissu industriel français. On en parlera dans un instant avec Pascal Cagny, là aussi, où il y a des chiffres positifs, mais c'est vrai que là, il y a vraiment un peu de quoi de s'interroger.
Alors, nos entreprises, nous, sont rarement des sous-traitants de l'automobile. Pour l'automobile, ça dépendra beaucoup de la relation entre les entreprises et les sous-traitants. Je suis très frappé, par exemple, que dans le plan de redressement de Renault, j'en ai vu dans ma vie des plans de redressement, d'habitude, le premier contributeur, c'est toujours les fournisseurs, qui font la moitié ou les deux tiers des économies, ils font les trois quarts de la valeur ajoutée. Et là, dans le plan de redressement de Renault, vous voyez, tout vient de Renault lui-même. C'est-à-dire que Renault a parfaitement compris que ce n'est pas en cognant sur les sous-traitants qu'il va redresser l'entreprise et assurer l'avenir industriel de la France. Et je crois que c'est un signe important, parce que je le redis, c'est la première fois que je vois un plan de redressement où les premiers appelés ne sont pas les sous-traitants et les fournisseurs.
La question qui est intéressante aussi, c'est d'abord, est-ce que vous croyez qu'on peut... C'est Louis Gallois ici même, que vous connaissez, qui est le patron de France Industrie, qui a lancé le débat, qui a fait débat du reste. Est-ce qu'on peut relocaliser... Il est président du conseil d'administration de PSA aussi. Est-ce qu'on peut relocaliser en France des usines? Il a dit, oui, pourquoi pas, si les Français sont prêts à payer plus cher leur voiture. Qu'en pense le président d'honneur de Renault?
Je vais vous dire, il faut regarder un peu le passé. En 2005, quand j'ai quitté Renault, on fabriquait 1,3 million voitures en France. En 2018, on en fabriquait moins de 700 000. Autrement dit, la production en France a été divisée presque par deux pendant la période Ghosn. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord arrêter l'hémorragie. Et ça, je crois que c'est tout à fait possible, parce que la France, bien sûr, les salaires sont un peu plus chers qu'ailleurs, mais pas plus chers qu'en Allemagne, qui est la première industrie automobile européenne. Ils sont plutôt moins élevés qu'en Allemagne. Deuxièmement, la France est bien située en Europe, et la logistique, c'est fondamental. Donc, ce qui est important à mes yeux, c'est d'arrêter l'hémorragie. Et puis, alors on ne reviendra pas à 1,3 million de voitures, je n'y rêve pas. Mais si on charge bien les usines françaises, il ne s'agit pas de créer de nouvelles usines, on ne va pas construire de nouvelles usines. Mais il y a de quoi augmenter jusqu'à 900 000 ou 1 million la part des la production de Renault en France.
Donc vous dites, on ne peut pas avoir, c'est trop tard pour avoir des relocalisations, mais en revanche, on peut augmenter la production. Mais on voit bien les interrogations sur le site de Maubeuge, je ne vous demande pas de rentrer trop dans le détail, parce que je sais que c'est compliqué pour vous. Mais en même temps, on s'interroge en disant, que est-ce qu'il faut, sur les usines de Renault, regarder Flins, il n'y a plus de voitures qui sont construites à Flins, ou quasiment quoi.
Ce qui n'est prévu que Flins ne continuera pas à monter des voitures. Ça deviendra un centre de...
Oui, donc c'est compliqué. Etc.
Oui, cela dit, si je puis dire, quand je suis arrivé chez Renault en 86, on s'interrogeait déjà sur l'avenir de Flins. Donc c'est un sujet...
récurrent, oui.
Bon, mais je le dis, dans le plan de redressement de Renault, il y a la capacité d'augmenter la production en France, alors que depuis 15 ans, elle a diminué tous les ans.
Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est quelle voiture ? Parce que Louis Gallois, toujours, je prends cet exemple-là, il disait, mais il faut qu'on ait de la valeur ajoutée. Donc, on peut être de l'industrie, faire de l'industrie, mais il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. C'est un peu la difficulté, parce qu'aujourd'hui, Renault, c'est... Bon, il y a les voitures électriques, bien sûr, mais il n'y a pas tellement de voitures haut de gamme. Donc, ils produisent surtout dans les pays de l'Est, hein.
Alors, les voitures très premier prix, comme la Logan, ça, on ne la construira pas en France parce que c'est peu automatisé et le coût de la main-d'œuvre est essentiel. Pour des voitures milieu de gamme, disons la famille Mégane, la famille Laguna, si elle changera peut-être de nom, je pense que les coûts de main-d'œuvre de montage ne sont pas déterminants si on a des usines productives automatisées et compte tenu de l'avantage de la localisation. D'une certaine façon, l'Espagne, par exemple, parce qu'elle est plus loin du centre de l'Europe, même si elle a des coûts salariaux plus faibles, est dans une situation qui est plutôt plus difficile que la France.
Mais maintenant, ce constructeur Seat produit beaucoup en Espagne.
Et parce qu'ils ont, je dois le dire, ils ont eu un très bon patron.
N'est-ce pas, qui arrive chez Renault, hein, c'est pour ça que vous dites ça, c'est l'élève de Cadimeo.
PSA a un très bon patron, il vient de chez Renault.
Ouais.
Donc nous donnons et nous recevons, mais Seat a aussi eu une bonne politique produit.
Est-ce que Renault joue sa survie, à votre avis ? Qu'en pense l'ancien patron de Renault ?
Je pense que si le plan de redressement n'était pas mis en œuvre, la survie de Renault serait compromise, comme elle a été sauvée, Renault a été sauvée par Georges Besse en 85. Et je pense qu'aujourd'hui, après une période difficile, oui, sans plan de redressement, Renault serait en péril. Mais j'ai assez confiance dans le plan de redressement.
On paye quoi, là ? Renault paye quoi ? La folie des grandeurs de Carlos Ghosn ?
Je ne veux pas entrer dans le détail, mais elle paye une absence de management présent.
Opérationnel, quoi. Enfin,
Oui. Et quand une entreprise automobile n'est pas gérée, ça se remarque très vite.
Mais est-ce que c'est aussi peut-être un schéma ? Parce que c'est vous qui avez initié l'alliance, hein, on va le rappeler, le Schweizer avec Nissan, et c'est vous qui avez nommé justement Carlos Ghosn chez Nissan. Est-ce que ce genre de modèle-là correspond plus au monde d'après ?
Non, je ne crois pas.
C'est avec la mondialisation. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend en tous les cas.
Oui, mais enfin, moi, ma conviction, c'est que une alliance qui fonctionne bien est quelque chose de plus efficient qu'une fusion artificielle entre des entreprises trop différentes. Entre PSA et Fiat, il y a une proximité de longue date, et c'est pas très loin, c'est la même culture, finalement. Entre une entreprise européenne et une entreprise japonaise, c'est beaucoup plus difficile de fusionner. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, à dire le vrai.
Cela dit, on voit bien, parce qu'un des points clés de cet accord, ça sera ma dernière question, mon avant-dernière question du reste, sur le technocentre, on dit qu'il y a là beaucoup de licenciements. C'est compliqué de faire travailler des Japonais et des Français, même sur les voitures du futur, quoi.
Le premier problème est un problème de langue.
Oui.
C'est enfin ce
parce
que j'avais
plus,
identifié.
L'anglais des Japonais n'est pas évident à comprendre.
Mais les Japonais parlent rarement bien l'anglais, les Français
très mal.
Et presque aucun Japonais ne parle français, et presque aucun Français ne parle japonais. Donc, si on veut faire qu'on conçoive ensemble. Il faut répartir les tâches et pas essayer de faire une équipe où il y a 10 Japonais et 10 Français. Ça peut se faire pour prendre les décisions. Mais pour le fonctionnement quotidien, ne pas être à l'aise avec le langage, c'est impossible. Et c'est pour ça que la fusion n'est pas une si bonne idée.
Toute dernière question, juste là-dessus. C'est vous qui avez amorcé, pas un rapprochement, mais en tous les cas, une prise de participation avec Daimler. Ça aurait un sens aujourd'hui de se rapprocher de Daimler ou pas pour Renault ?
Moi, je n'ai jamais fait de rapprochement.
Non, mais pas rapprochement, mais vous avez initié, non ?
Non.
Je crois que c'était sous votre règne.
Sous mon règne, j'avais refusé un projet de rapprochement avec Daimler.
Un grand projet, mais je croyais qu'il y avait toujours quelque chose. Bref, ça n'a aucun sens de se rapprocher de Daimler, c'est ça que vous nous dites. Aucun. Eh bien voilà, la réponse elle est claire, même si ma question l'était un petit peu moins. Merci beaucoup, Louis Schweitzer, d'avoir été avec nous. Et puis donc, cette enquête qu'on peut retrouver sur votre site d'Initiative France, parce que là, on voit bien l'espèce de choc incroyable qu'a vécu les TPE, qu'ont vécu les TPE.
Mais la résilience des TPE.
Mais voilà, mais il y a le côté positif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si j'en reparle, c'est que dans un instant, on parle du bilan des investissements internationaux en France. Troisième année record, c'était en 2019, avec Pascal Cagny, le président de Business France. Il nous dira un peu comment ça se passe aussi pour 2020, tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Pascal Cagny, le président de Business France. Pascal Cagny, merci d'être avec nous. Vous me disiez là, à l'instant, juste avant de prendre l'antenne, c'est ce moment-là, je l'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire que année record de record pour les investissements internationaux. Ce que j'ajoutais, c'était en 2019. En 2020, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais restons pour l'instant sur ce bon bilan 2019. Qu'est-ce que vous en retenez ? Il y a 1468, je crois, investissements étrangers en France.
Ce que je retiens, ce sont des résultats effectivement qu'on attend depuis 2-3 décennies. Jamais la France, sur la base du baromètre EY annoncé la semaine dernière et du chiffre d'aujourd'hui 1468 projets, n'a été aussi haut dans l'attractivité. Et donc, il faut à un moment donné comprendre que ces résultats nous honorent et le célébrer, mais aussi nous obligent. Sur le fait qu'ils nous honorent, il faut bien comprendre qu'ils sont exceptionnels. Exceptionnels puisqu'ils sont en croissance de 11%. Ils sont exceptionnels parce qu'ils viennent de près de 58 pays et dont 75% viennent de l'Europe. Donc, vous voyez, l'Europe que l'on montre toujours du doigt, elle fonctionne au jour le jour. Et ils sont exceptionnels aussi puisque cette fois-ci, on a près de 30% d'emplois qui sont soit maintenus, soit créés. Et c'est important parce qu'il faut comprendre que les entreprises étrangères représentent près de 2 millions d'emplois en France. Ce sont des entreprises citoyennes, 20% de la recherche développement, 30% de l'export. Elles participent quelque part à l'économie française dont on sait, on vient de le voir, avec une croissance ou une décroissance de près de 11%, a besoin de toutes ces forces vives.
Oui, alors d'abord, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est que d'abord, sur ces projets d'investissement, quelle est la taille de ces projets ? Parce que vous voyez, on peut avoir 1468 et se dire c'est formidable, on bat tous les records, mais si c'est des petits investissements, autant en avoir 10 gros. Vous voyez, quelle est la moyenne ?
C'est très bon point, mais en gros, sur 1468, vous avez plus de 40 000 emplois. Donc vous voyez qu'on est sur des projets qui vont entre 30 et 40 en moyenne. On commence à les mesurer à partir de 10. Et ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la pérennité de ces emplois. Et là, il faut un petit peu rentrer dans la granularité des chiffres et comprendre, par exemple, que ces emplois ou ces projets permettent, dans 70% des cas, avoir des projets industriels dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc, on se bat contre la désertification industrielle dont on parle depuis très longtemps. Ce sont des projets aussi qui ne sont pas simplement sur des grandes agglomérations. Ils sont pour 40% d'entre eux sur des agglomérations de moins de 200 000 au global. Donc ce qui est important, c'est de comprendre qu'ils démontrent aussi, et je crois que le sujet avec M. Schweitzer était très clair, que les Français sont plaidoyés depuis plus de 15 ans par les gens qui ont des projets industriels. Sachez que nous avons depuis 15 ans le leadership incontestable sur le nombre de projets industriels.
Mais alors qu'est-ce qu'on met sous le nom de projet industriel ? Parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant, parce qu'on dit l'industrie c'est plutôt l'Allemagne, c'est pas tellement la France. Donc qu'est-ce qu'il y a comme projet industriel ? industriels.
Mais ce sont les idées reçues contre lesquelles il faut se battre constamment.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Expliquer lorsque l'on est un investisseur étranger qui regarde la France, on se rend compte qu'on a une place extrêmement positive, c'est-à-dire un hexagone. On a des infrastructures bâties sur près de 2 ou 3 décennies qui sont aujourd'hui reconnues comme étant extrêmement fortes. Une main-d'œuvre, il l'a rappelé, qui est en fait plus compétitive que celle de l'Allemagne. Et finalement, nos investisseurs votent avec leur carnet de chèque et avec leurs pieds en investissant dans des usines et des extensions d'usines. Parce que c'est ça qui est important, c'est de comprendre combien de temps les gens restent fidèles. Et ça, ça fonctionne très bien. Mais ce n'est pas que ça. L'industrie représente...
Comme nouveaux projets, sur ces 1468, combien sont des nouveaux projets?
Ça, c'est aussi pourquoi ces résultats sont exceptionnels, puisque pour la première fois, on passe le point des 50%. 52% de ces projets
sont... Ça, c'est un point très important.
Très important. Très important, mais il faut d'abord, vous savez, c'est comme dans le marketing, il faut d'abord s'assurer de satisfaire, de surprendre et de continuer.
Oui, c'est comme dans un couple.
Avec nos clients actuels. Ouais. On le fait bien, mais avoir des nouveaux projets, c'est qu'une fois encore, les gens, malgré les crises sociales, gilets jaunes, réforme des pensions, votent avec leur carnet de chèques sur le fait qu'aujourd'hui, ils peuvent créer des jobs, bénéficier des réformes qui ont été faites depuis 3 ans et qui, je crois, vont continuer à être faites puisque c'est tout le sujet de l'adresse du Premier ministre cet après-midi à plus d'une quinzaine de grands patrons et de ce qu'a déjà répété le ministre Le Maire lorsqu'il disait « Nous n'irons pas par faire une relance simplement par des impôts, il va falloir continuer à investir ».
En fait, c'est le message que vous portez, Pascal Cani, c'est-à-dire de te dire, attention, la tentation, on voit bien, là, on est dans une économie complètement sous cloche étatique, on est dans une économie administrée, et vous dites, parce que la tentation est grande, de revenir sur toutes les réformes qui ont été conduites dans la première partie du quinquennat. Et vous dites, non, il faut se souvenir que ça a marché.
Ça a marché, et je crois que les mots, comme vous le savez mieux que quiconque, sont importants. On a une sorte de cloche, mais en même temps, quand on pose la question aux investisseurs étrangers, ils nous disent qu'ils sont extrêmement satisfaits de la réaction de la France. Et pas parce qu'ils ont usé ou abusé du chômage partiel. On sait par exemple que près de 75% des entreprises françaises ont eu un plan de chômage partiel. Près de 12,5 millions de salariés ont été en chômage partiel. Alors que les entreprises étrangères, on parle de 28 000 entreprises, ont en général été beaucoup plus faibles à cela puisqu'elles sont moins de 45% à avoir requis le chômage partiel. Mais ils votent sur une grande idée, c'est de dire il faut qu'on continue sur la flexibilité du travail, il faut qu'on continue sur les réformes qui sont en fait, notamment les impôts de direction.
C'est compliqué,
et surtout,
ça.
Ouais, le numéro un, c'est de ne pas remettre en cause les réformes qui leur ont permis de, aujourd'hui, venir...
C'est déjà fait sur l'assurance chômage, c'est déjà fait sur les retraites. En ce moment, on ne peut pas conduire, déjà avant, on ne pouvait pas conduire les retraites. La réforme des retraites, qui n'est peut-être pas une bonne idée, hein, telle qu'elle a été conduite, en tous les cas. Et là, c'est sûr que le président, il ne va pas maintenir
cette réforme. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à réformer pour une raison simple. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La moitié de la planète a été en confinement. En quelques jours, nous avons augmenté par 10 le nombre de gens qui font du télétravail. En quelques jours, ce qui aurait dû mettre 2 ou 3 ans, c'est-à-dire la numérisation professionnelle, s'est accéléré. Donc ce temps court, qui est celui à quel on a été confronté, doit être utilisé de manière positive. Il faut sans doute continuer la réforme du code de travail pour à la fois reconnaître que les gens vont faire plus en télétravail, mais qu'il faut aussi une forme de régulation sur ce thème-là. Mais... Donc au contraire, c'est maintenant qu'il faut accélérer sur la réforme, accélérer en se reconnaissant qu'on n'a plus les mêmes moyens. Et donc, il faut continuer à faire en sorte que l'entrepreneuriat qui est au cœur de cette rénovation française puisse créer des jobs, créer des chiffres d'affaires, créer des profits qui sont mieux taxés demain.
Mais est-ce que vous pensez...
Si on ne fait pas ça, on sera dans un cercle vicieux.
Oui, mais Pascal Cani, ça, c'est votre vision du monde. Vous êtes un entrepreneur, vous avez travaillé longtemps chez Apple, vous avez une vision presque américaine, vous avez d'un fonds d'investissement, vous êtes complètement dans le digital, dans le numérique. J'ai envie de dire, c'est plus tellement le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, ça.
En quoi ce n'est pas le monde? Le monde que j'ai bâti pendant 20 ans en Anjou, où on a créé 3000 jobs chez Apple et aujourd'hui en investissant dans des entreprises françaises, est le monde d'aujourd'hui. Au contraire, je pense qu'il faut appréhender ce monde de demain et la France a des attributs rares et uniques. Réfléchissons 2 minutes. Vous posiez la question à M. Schweitzer de la question de la relocalisation.
Ouais.
Moi, je ne suis pas suffisamment informé pour vous dire qu'elle se fera. Mais ce que je sais, c'est que la globalisation qui a permis d'aller chercher partout dans le monde les coûts les plus faibles, cette déglobalisation qui a conduit à faire en sorte que, par exemple, l'iPhone, et là, je sais de quoi je parle, les composants du iPhone parcourent plus de 800 000 kilomètres,
oui.
Celle-là, elle est passée. Ouais. Elle va nécessairement se réduire. Par contre, une globalisation qui fait qu'on se rapproche des clients et qu'on arrive en France en se rendant compte que nous avons des infrastructures qui sont reconnues de par le monde comme étant excellentes, exceptionnel. Un entrepreneuriat qui est fort, une formation extrêmement bien formée, où on se rend compte qu'on a aussi des incitations pour faire de la recherche et développement, puisque je vous rappelle qu'à côté de l'industrie, la recherche et développement est aussi
un des points importants de cette enquête.
Absolument. Et donc, et qui, mieux encore, au moment où le digital explose, on nous dit que le troisième grand thème du succès exceptionnel de la France sur cette année sur l'attractivité, c'est lié en fait à la logistique liée au commerce, à la distribution. Et bien là, vous avez trois atouts rares, uniques, qui correspondent parfaitement au monde de demain. Donc, plutôt que de travailler avec les héros du déclinisme français, qui, plutôt que de regarder les faits et de comprendre ce que sont ses atouts pour se battre demain, faire en sorte que la France l'année prochaine soit encore le miroir de l'attractivité, ben je crois qu'il faut épouser cela. Mais il faut du capital. Et ça, c'est la question de l'épargne dont j'espère pouvoir parler avec vous.
Oui, mais on va parler dans un instant. Vous allez en parler surtout avec le Premier ministre, hein, parce que c'est le point important. Il y a un point encore que j'ai trouvé bien dans votre bilan des investissements internationaux que vous publiez donc ce matin, parce que la Canis, c'est sur le Brexit. En fait, la France a quand même bien profité. Enfin, parmi les projets d'investissement, il y a des relocalisations, clairement, notamment de groupes financiers.
Clairement.
On peut le chiffrer, ça?
On pense aujourd'hui que l'Angleterre est devenue notre troisième acteur, avec près de 12%. Et leur croissance d'une année sur l'autre en nombre de projets est assez forte, puisqu'elle est de plus de 40%. Et c'est clair qu'on bénéficie du Brexit. Vous savez, quand on gagne sur un terrain de football ou partout, c'est à la fois à faveur d'atouts qui nous sont propres, mais aussi des faiblesses de nos adversaires. Et les incertitudes économiques, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Hollande, ou le Brexit, ont participé à cela. Donc on est en train d'avoir un petit peu un phénomène d'emballement fort, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à accélérer. Surtout que, il faut bien reconnaître que lorsque vous aviez les images de Fox il y a 2 années sur Gilets jaunes, qui comparaient la France à l'Irak, et que malgré tout, les investisseurs, et ils sont sur le temps long, continuent à venir dans notre pays, c'est que vraiment, nous avons quelque chose d'unique et de rare. Et s'ils le font de manière citoyenne, comme ils le font tous, en créant des jobs sur la durée, je crois qu'on va continuer à gagner. Je suis désolé d'être optimiste, naïf, en fait. Non, mais c'est les chiffres qui nous disent cela.
Oui. Est-ce que sur le secteur industriel, quels sont les secteurs là où on est bon?
On continue à être très très bon sur tous les grands secteurs qui malheureusement ont subi une crise très forte. L'automobile, l'aérospatiale, pas la chimie, la pharmacie, où là évidemment ils vont tirer parti énormément de cette crise sanitaire pour un petit peu se réformer et mieux challenger un petit peu la globalisation de hier. On est bon évidemment sur la R&D, on continue, c'est pas un secteur en tant que tel, mais on continue à attirer des talents. Donc je pense qu'on a les... Et puis je ne vais pas vous parler du luxe évidemment, mais ça continue à être un des fers de lance de notre industrie. Donc on est bon, on a souffert, mais je crois qu'il n'y a pas de raison, lorsqu'on écoute, et je le fais régulièrement avec les meilleures équipes de Business France, qu'on écoute un petit peu nos investisseurs étrangers sur le fait qu'ils vont tout d'un coup quitter le pays parce qu'on a eu trop de chômage partiel, parce que l'on a 11% de décroissance. Non, on attend le rebond et le gouvernement il travaille avec un plan de relance tourisme qui a été salué, un plan de tourisme automobile, un plan de relance sur l'aéronautique et évidemment la French Tech.
Pascal Cagny, il y a un point que je trouve aussi un peu novateur, c'est de voir que en fait, ces investissements, ils ne sont pas qu'en Île-de-France. Certes, ils sont en Île-de-France, qui reste la première région, mais c'est aussi dans les Hauts-de-France, c'est aussi en Occitanie, ça veut dire que ça se déploie un peu sur le territoire français. Et je pense que c'est vraiment aussi une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle et c'est le bénéfice, une fois encore, de nos infrastructures. Quand vous offrez à des investisseurs ou à des employés ou à des savoir-faire, des compétences, la possibilité d'aller de Lille à Paris, de Paris à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, de manière simple et agréable, parce que ce sont des milliards d'investissements, eh bien vous arrivez à déconcentrer un petit peu ces investissements. La recherche et développement reste très forte sur l'Île-de-France, mais elle n'est pas que là. Elle va aussi sur les autres...
Oui, les Hauts-de-France, ça montre que quand on a une politique volontariste, un peu comme l'a Xavier Bertrand, on peut aller chercher des investisseurs.
Et on bénéficie, une fois encore, dans le Nord... dans les Hauts-de-France, excusez-moi, on bénéficie évidemment du Brexit qui fait que la proximité de cela conduit à cela. Mais quand on revient au propos, je crois que le grand débat et ce qui sera notre rôle chez Business France, c'est de continuer à convaincre nos investisseurs, mais aussi dire aux Français qu'il faut absolument qu'ils retournent consommer. Oui. J'ai vu un chiffre de M. Villeroy de Gaillot qui montrait que le taux d'épargne est passé de 15 à 30%. Nous avons en 4 mois fait plus d'épargne de cela. Et donc, ce qu'attendent les investisseurs, et ça c'est le point important, pourquoi ils sont là ? pour l'infrastructure, la recherche et développement, les incitations multiples et variées, mais ils sont là aussi parce qu'il y a un marché intérieur extrêmement important. Donc il faut que nous tous, Français, vous, moi, tous ceux qui nous entourent, nous consommions. Et si on fait cela, je crois qu'on va avoir cet effet en V de la courbe de croissance qui devrait revenir très vite.
Oui, mais en même temps, il y a eu Muriel Pénicaud que je recevais ce matin. Je ne lui ai pas posé directement la question parce qu'elle s'est déjà exprimée sur ça en disant qu'il faut consommer. Ses propos ont suscité la polémique, elle a été très critiquée parce que, à la limite, il y a des Français qui disent, attendez, on nous dit, faut acheter des voitures, faut aller consommer, faut aller au café. Je veux dire, on a une forme de liberté, donc, quand même, si... Est-ce que les Français, en ce moment, on doit leur dire consommer, dépenser votre argent, alors qu'ils ne savent pas très bien s'ils auront encore un job dans quelques mois? Moi, je veux bien, mais il faut un peu de prudence,
peut-être.
On aura
près de 10% de chômage. On sait qu'on aura entre 1,5 million et 875 000 demandeurs d'emploi en plus. On le sait. C'est à comparer aux 40 millions des États-Unis ou de ce qui se passera en Angleterre. Et on se rend compte que le retour de l'État dans le jeu économique a beaucoup servi. Et le débat aujourd'hui de la consommation, c'est très simple. C'est lorsqu'on fait une relance intelligente en demandant aux Français de consommer pour bâtir une économie décarbonée. C'est ce que fait le président sur le plan automobile. Lorsqu'on demande aux Français de consommer pour pouvoir produire et consommer du produit made in France, je pense qu'on est dans la logique de ce qu'on fait. À quoi sert d'avoir 30% de taux d'épargne alors que nous avons des PMI, des ETI qui ont des savoir-faire dont il faut recapitaliser parce que c'est ça la vraie bataille. Vous savez, finalement, ce qu'on a vécu, c'est quoi ? La crise sanitaire, c'est sauver des vies. S'assurer de la liquidité, les jobs, la prochaine grande bataille, c'est comment donner des ressources pour que nos PME, ETI et grandes entreprises puissent réinvestir. Parce que si on réinvestit à contre-cycle, on sait qu'à la sortie du cycle négatif, eh bien, on sera le gagnant.
Deux questions encore. D'abord, juste parce que vous connaissez très très bien les États-Unis, on va rappeler, vous avez passé quoi, 20 ans chez Apple à peu près, et vous y allez toujours beaucoup. Quel regard vous portez sur ce qui se passe aux États-Unis ? Là, c'est vraiment une situation...
Je suis très fier de mon pays et de cet État-providence qui est le nôtre. Qui fait que lorsqu'on l'appelle aujourd'hui la Silicon Valley, il nous parle souvent des milliers de jobs qui sont mis à la rue avec taux de coût de l'emploi et de taux de vie qui sont extrêmement forts. Je pense que finalement, on n'a peut-être pas eu les croissances qu'ont eu les États-Unis, mais qu'on a un respect de l'homme qui est plus fort, indépendant de ce qui se passe dans les rues en ce moment aux États-Unis. Donc, c'est ce pourquoi d'ailleurs, je me suis complètement rentré dans ce job d'ambassadeur aux investissements étrangers. C'est pour expliquer finalement à l'ensemble de nos citoyens que ce qu'on fait ici est finalement, sur la durée, quelque chose de beaucoup plus raisonnable.
Alors, vous êtes très optimiste, juste quand même. Pourquoi à ce moment-là ? Je ne sais pas pourquoi Elon Musk, il n'a pas choisi la France pour construire son usine Tesla.
Vous allez me reparler de cela comme vous en avez parlé il y a 3-4 mois.
Eh bien, c'est emblématique quand même. On a tout pour et il va en Allemagne.
Il est allé en Allemagne pour peut-être des raisons qui lui appartiennent. Moi, plutôt vous parler du verre à moitié vide, j'aimerais vous parler de Toyota qui bâtit des voitures électriques ici.
Oui, mais Toyota, ça fait longtemps qu'il est là.
Mercedes.
Oui. Mais Elon Musk, il incarne ce que vous voudriez que la France soit.
Eh bien, très bien. Donc, c'est pour ça qu'on va gagner les prochains Elon Musk, on va gagner les prochains grands projets, on va gagner à la fois les micro-projets, les grands projets. C'est pour ça que le gouvernement continue à travailler. Et chez Business France, on s'y attelle, mais forte, avec l'ensemble de nos chargés d'affaires.
Mais il l'avait dit quand même, et on s'est pas le seul, c'est que la technocratie a fait que pour obtenir une autorisation ça prend énormément de temps.
Là aussi,
est-ce que c'est faux ou pas ? Non, mais je vous pose la question, vous êtes en studio avec nous.
Je ne sais pas s'il s'est exprimé, je le vois sur vos écrans. Aujourd'hui, il est évidemment au pic de sa gloire avec ce qui s'est passé sur SpaceX, c'est tout à fait raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, la technocratie n'a rien à voir sur cette décision-là. Il est allé proche de Berlin, loin de la roue ou avec la présence de Peugeot, de Renault sur tout ce croissant européen unique, on aurait pu lui offrir beaucoup de choses. Plutôt que parler de ce qui ne fonctionne pas. Regardons un petit peu ce que fait Mercedes, ce que fait Toyota, ce que fait Fujitsu.
Oui, mais on peut tirer des leçons.
Assurez-vous qu'on a tiré des leçons très fortes sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'on a maintenant une cellule qui est beaucoup plus, mobile sur ce sujet. Et on essaie de travailler mieux encore avec les régions.
Comment ça se passe? Là, on est 5 mois. Est-ce que vous avez déjà... Il y a eu des investissements depuis le début de l'année en France?
On a des investissements qui sont effectivement en repli d'une année sur l'autre, clairement. Mais la bataille, ce ne sera pas de savoir si on va être en repli. C'est sans doute inévitable avec une croissance, une décroissance telle que celle qu'on verra. Ce qui est important, est-ce qu'on garde la position numéro 1? C'est ce qu'on prend notre part de marché forte relative qui est près de 18%. Donc je crois qu'il faut travailler avec un contexte différent. Il faut remettre en action les actifs qui sont les nôtres. Il faut aussi peut-être continuer la réforme. La réforme est très, très importante. La réforme à la fois sur les impôts
de production,
la réforme sur la flexibilité, la réforme sur embrasser un peu plus encore fort cette révolution numérique.
Le télétravail, parce que vous avez dit un point important, et c'est le sujet que vous connaissez bien, là, ça nous a fait basculer, on le sent bien, on a gagné 5 ans en termes de numérisation de notre économie. Est-ce que le télétravail est quelque chose qui va...
perdurer ?
Non, un perduré, mais un peu bouleversé, justement. La donne et le regard que des étrangers peuvent avoir sur la France.
Là, ils bénéficient d'une infrastructure en matière de haut débit qui est une des meilleures, sinon la meilleure d'Europe. Ils bénéficient aussi d'un cadre de vie et d'une aptitude à aller d'un endroit à l'autre qui est très fort, puisque là, ce qui est en cause, c'est comment on peut être productif. Et ce qui se passe là, c'est qu'on a montré que la France va complètement... cette numérisation professionnelle va complètement être épousée. On est maintenant quasi certain de cela. De grandes entreprises ont déjà expliqué qu'elles vont changer un petit peu le modèle, vous savez, de l'open space, où tout le monde était sur le même plateau. On va commencer un petit peu à naviguer. On va réduire aussi l'empreinte carbone qui est sur des bureaux au centre des villes. Et donc ça, ça va se faire. Mais évidemment, la question se posera, c'est comment on a une régulation sociale raisonnable pour que ce qui est a priori quelque chose de très positif ne change pas. Il faut que les Français se rappellent qu'ils dorment à la maison et non pas au travail et qu'ils puissent tirer parti de cette digitalisation qui se fait à marche forcée dorénavant.
Voilà, un peu, voilà, travailler en Anjou par exemple, comme d'autres. Pascal Cagny, la question un peu rituelle sur le monde d'après. Votre monde d'après, est-ce qu'il est dominé non pas par des États, mais par les GAFAM?
Les GAFAM ont créé 68 000 jobs en Angleterre et en Irlande. Mmh. C'est aujourd'hui une de nos cibles chez Business France. Ils n'en ont que créé 8 000 en France. Donc notre propos à nous, c'est de commencer à s'intéresser à la prochaine génération des GAFAM et s'assurer que notre terre d'élection et leur terre d'élection soit la France. Il est dominé par les GAFAM, ils sont mieux régulés. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de le pointer du doigt. Et puis moi, je vous parlerai plutôt des NATOOS. Qu'est-ce que ce sont les NATOOS? Ce sont Netflix, Uber, Tesla dont on vient de parler et Airbnb. Ils n'ont aucune propriété littéraire artistique. Ils n'ont fait qu'une seule chose, utiliser les plateformes des GAFAS pour recréer des jobs. Mmh. Eh bien, si nous, les Européens, plutôt que de continuer à rêver de créer un Google européen, on se disait, prenons ces plateformes et tirons-nous parti au bénéfice de notre propre économie. Je crois que c'est ça. Passons des GAFAM aux NATOOS et créons les NATOOS européens. Si on fait tout ça ensemble, on aura plus de jobs, plus de travail et sans doute une décennie qui reste extrêmement intéressante.
Les NATOOS, voilà ce que vous allez proposer, vendre au Premier ministre tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Cagny, donc le président de Business France avec cette année record donc en termes d'investissements internationaux pour la France. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h15 avec donc Hélène Bourbeloux, la première syndic de France. Ça va être intéressant aussi de savoir, c'est elle qui gère tous les gros dossiers. Elle va nous expliquer comment ça se passe. Et puis bien sûr, on se retrouve dans l'orage demain à 12h, 13h. Bonne journée.